VOA Afrique, les infos à Washington.
Eric Manirakiza avec vous pour vous présenter ce dernier bulletin de la soirée. Au moins 26 personnes sont mortes dans le crash dimanche matin d'un petit avion de ligne en République démocratique du Congo qui s'est écrasé 2 minutes après son décollage sur une maison d'un quartier populaire de Goma dans l'est du pays. L'accident a tué les 19 personnes qui avaient pris place à bord du petit porteur de la compagnie Busibi. 7 personnes en sol ont également été tuées dans la chute de cet avion de type Dornier 228. Sur une maison proche de l'aéroport de Goma, ajoute le communiqué du ministère de Transport. Ces personnes pourraient être des membres d'une même famille. D'autres sources locales à Goma parlaient dimanche soir d'un bilan plus élevé, entre 27 et 29 morts avec des blessés hospitalisés. L'appareil s'est écrasé sur le quartier Birere Mapendo peu après 9 heures à côté de l'aéroport construit près de la frontière avec le Rwanda, au milieu des zones densément peuplées, selon des vidéos partagées sur les réseaux sociaux. Au Burkina Faso, les 4 personnes, 3 Burkinabés et un expatrié asiatique, prestataire de services pour l'État burkinabé, portés disparus depuis vendredi dans le sud-ouest du Burkina Faso, ont été retrouvés samedi soir à plusieurs kilomètres de Sidéradougou. Une source sécuritaire avait parlé de probables enlèvements et indiqué que des opérations de ratissage de la zone avaient été lancées. L'ex-chef de la rébellion ivoirienne Guillaume Soro, candidat à la présidentielle de 2020, a rencontré dimanche à La Haye Charles Blé Goudé, l'ex-chef des Jeunes Patriotes en liberté conditionnelle dans l'attente d'une décision de la Cour pénale internationale. Les deux hommes s'engagent à œuvrer pour une réconciliation sincère, conviennent que la réconciliation doit se nourrir de vérité et de repentance, gage de tout pardon. Monsieur Soro a multiplié les gestes envers ses anciens adversaires politiques, demandant pardon à Laurent Gbagbo ou en s'entretenant avec l'ancien président Henri Konan Bédié, lui aussi passé du RHDP à l'opposition. Les Bissau-Guinéens ont voté dimanche pour élire leur nouveau président et espérer tourner la page de l'instabilité chronique dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Le scrutin a été terni par des échauffourées, des accusations de fraude lancées par le camp du président sortant José Mario Vaz. Les premières tendances sont attendues en début de semaine. La date du 29 décembre a été retenue pour un second tour hautement probable. La Tanzanie a également organisé aujourd'hui des élections locales considérées comme un test avant les élections nationales de l'année prochaine, mais sans le principal parti d'opposition, le Chadema, qui boycotte le scrutin en invoquant la violence et l'intimidation. Le parti Chamachamapinduzi, 6e, du président John Magufuli au pouvoir depuis 2015, est ainsi assuré de l'emporter. L'ex-maire de New York, Michael Bloomberg, a annoncé dimanche être candidat à l'investiture démocrate en vue de l'élection présidentielle américaine de 2020. « Je suis candidat à la présidentielle pour battre Donald Trump et reconstruire l'Amérique », a déclaré sur son site internet le milliardaire de 77 ans. Monsieur Bloomberg, qui dirigea New York de 2002 à 2013, avait multiplié ces dernières semaines les préparatifs à sa candidature attendue, s'enregistrant notamment jeudi auprès de la Commission électorale fédérale, 9e fortune mondiale d'après Forbes. Michael Bloomberg a lancé dimanche une campagne de publicité télévisée pour un montant record de 31 millions de dollars. Le pape François a qualifié dimanche de crime l'usage de l'atome à des fins militaires et a démonté la logique de la dissuasion nucléaire durant des visites à Nagasaki puis Hiroshima, ville japonaise martyre de la bombe atomique. La possession d'armes nucléaires est immorale, a-t-il ajouté, sortant du texte prévu pour son discours. Un nombre record de Hongkongais se sont mobilisés dimanche pour les élections locales. La mouvance pro-démocratie entendait utiliser les urnes pour accroître la pression sur les autorités de l'ex-colonie britannique, théâtre depuis juin d'une contestation sans précédent. En Irak, 4 manifestants ont été tués dimanche dans le sud du pays, où la désobéissance civile s'amplifie face à un pouvoir toujours en transition.